tous, c'est Nicolas et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le nouvel épisode du CKB Show. Nous en sommes aujourd'hui au numéro 8 et nous allons aborder encore plein de sujets qui vont, je l'espère, vous intéresser et vous subjuguer. Le CKB Show, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un podcast qui traite essentiellement de Chrome OS et de tout ce qui gravite autour. Je parle évidemment des applications et des extensions Chrome du navigateur de Google, mais aussi des applications, des jeux de Android, le système d'exploitation pour smartphone qui débarque progressivement sur nos Chromebooks. Alors, ce CKB Show, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de l'enregistrer avec
Salut
Thomas.
Nico,
Salut
ça
Thomas,
va, ça va. Il recommence à faire un peu plus frais ici après quelques jours de grosse chaleur à San Francisco. Donc ça fait du bien.
Eh ben tant mieux parce que chez nous il pleut à torrent. Enfin en tout cas je parle pour moi dans mon nord-est local, il pleut à torrent et je peux te dire qu'il fait à peu près 8 degrés donc faire une bonne moyenne entre nous deux je pense.
Exact.
Alors ce podcast on l'a voulu plutôt intéressant puisqu'on va vous parler des news, des nouvelles news, des news qui vont arriver un peu plus tard. Enfin on va faire un peu de travail de comment on a dit ça, prospective. De prospective et il y a des news qui vont nous aider et puis après Thomas tu nous as pondu un dossier qui va être super intéressant, qui va poser beaucoup de questions et d'ailleurs j'espère que vous auditeurs vous allez pouvoir nous en poser beaucoup et que ça va vraiment faire évoluer les choses et puis développer un discours entre nous. Alors sans aucune transition, tu me l'accordes hein, j'ai pas envie d'en faire là, je vais aller directement aux news, ça te va?
On attaque.
C'est cool. Alors première chose super intéressante, je trouve que vous devriez, je pense, tout savoir, ou presque en tout cas, c'est le nouveau lanceur d'application Chrome OS qui est vraiment tourné autour de l'univers de l'écran tactile. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'utiliser ce nouveau lanceur d'application sur ton Chromebook, Thomas ?
Alors, je ne pense pas. Moi, j'ai toujours l'ancien et je ne suis pas repassé sur Canary depuis un bail.
D'accord. Alors, du coup, je vais t'expliquer ce que c'est, finalement.
Allez, vas-y, raconte-moi.
Alors, c'est super sympa. En fait, c'est sympa. C'est plus ou moins déroutant en un premier temps. Aujourd'hui, tu as ton lanceur d'application qui a une fenêtre pop-up, hein, si on peut s'exprimer ainsi, qui apparaît devant ton écran et qui masque l'arrière de ton écran par cette fenêtre grise opaque et qui te liste. Donc, tu as ton moteur de recherche au-dessus, puis tu as tes 6 icônes d'un souvenir. Ouais, ça doit être 6 icônes avec les applications, les dernières applications que tu as lancées. Et ben aujourd'hui ça c'est fini. Tu te retrouves dans la barre la barre de lanceur tout en bas de ton écran. Maintenant tu as un petit rond, c'était la loupe qui était avant ici. C'était un carré avec plein de petits carrés, 9 carrés je crois. C'est passé en forme de loupe et maintenant c'est un petit rond. Alors ça ressemble étrangement au lanceur d'application Android sur Nougat. C'est un petit rond central maintenant. Donc qui s'est mis totalement à gauche hein, comme le lanceur Windows et compagnie. Et quand tu cliques dessus, cette fois, en fait, tu n'as plus un pop-up qui apparaît, mais tu as ta barre du bas, la barre noire, qui monte un tout petit peu. Un huitième de ton écran avec toujours ta barre de recherche mais en fond transparent cette fois. Donc, qui est plutôt intéressant. Tu vois toujours ce qui se passe derrière ton écran finalement. Et tu te retrouves avec seulement 5 icônes, des applications récentes que tu as lancées. Donc jusqu'ici tu vas me dire ouais bon bah c'est génial, ça a rien changé, c'est un design, ça fait une grande barre tout au long de ton écran hein. De droite à gauche t'as une seule grande barre donc elle fait un peu vide mais t'as tes 5 applications centrales et puis t'as une petite flèche en bas qui pointe vers le haut et elle est un peu animée, donc cette flèche elle t'incite à glisser ton doigt et glisser vers le haut et quand tu glisses dessus ou quand tu slides ta barre de lanceur, et ben là tu te retrouves avec toutes les applications façon lanceur d'application Android façon Pixel, enfin Android Stock en fait, et là tu te retrouves avec toutes les applications, tous les icônes disponibles directement, avec sur le côté droit t'as des petits points qui te disent sur quelle page tu es, donc tu as un certain nombre de pages, là elles sont indéfinies, hein. Tu peux en mettre autant que tu veux et tu te retrouves avec toutes les applications et ensuite tu slides avec ton doigt, comme sur ton smartphone, comme sur ta tablette Android. Ce qui est sympa, c'est surtout quand tu passes ton Chromebook en mode tablette hein, je t'avoue, parce qu'autrement tu te sers toujours de ta souris, ça change pas grand chose en termes d'utilisation. Par contre, quand tu passes en mode tablette, et ben d'un seul coup, tu slides et
d'accord,
ça va beaucoup mieux.
Écoute, la description, ouais. La description est parfaitement très complète. Et figure-toi que non, j'étais complètement passé à côté de cette histoire et je comprends pas pourquoi je l'ai pas en fait. Parce que est-ce que c'est disponible en mode canari ou c'est disponible en
alors là le Ah non, alors Canary, ça l'est depuis très trop longtemps. Là, j'ai un Chromebook en... Alors, j'ai le Samsung Plus en dev, qui est avec ses lanceurs d'applications. Et j'ai le Acer R13 en bêta et qui a aussi ce lanceur d'applications. Par contre, j'ai pas mon stable et j'ai pas vérifié. J'ai un Lenovo qui est en canal stable et j'ai pas regardé sur lui. Mais je mettrai un lien à la rigueur. J'ai fait un article dessus sur My Chromebook où j'ai fait quelques captures d'écran. Et ce qui est intéressant, ce qui est sympa, on va dire, c'est que tu sais, c'est un fond transparent, mais ça reste un fond pour bien définir tes icônes, pour pas qu'ils soient, t'aies l'impression qu'ils soient qu'ils soient sur l'écran que tu as. Et ce fond s'adapte en fonction de la couleur première de ton fond d'écran, en fait. Donc, si ton fond d'écran est bleu, ben ton lanceur d'application sera bleu. S'il a une tendance à être plutôt marron, ben ton lanceur d'application sera de tendance marron. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, ça apporte pas grand-chose en termes d'utilisateurs. Ceux qui n'ont pas d'écran tactile, par exemple, sincèrement, ça sert à rien. Par contre, ceux qui sont en écran tactile et qui passent en mode convertible pour pouvoir utiliser leur Chromebook comme une tablette, c'est vraiment sympa parce que t'as la même interaction, la même utilisation que sur une tablette ou un smartphone, et c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, quand tu passes en mode quand tu passes ton Chromebook en mode tablette maintenant, à côté du petit rond en bas à gauche de ton écran maintenant, pour lancer dans le lanceur d'application, t'as une flèche qui part vers la gauche, d'accord, qui permet de revenir en arrière comme sur un smartphone, comme sur Android. Tu sais, t'as les trois boutons, t'as le menu, t'as le carré, enfin je sais plus comment ça s'appelle, et puis t'as la flèche qui te permet de revenir en arrière. Et maintenant tu l'as, ce que t'avais pas avant et ce qui était un petit peu galère parce qu'il fallait interagir avec les boutons du navigateur web. Et qui n'était pas forcément évident d'accès avec ton gros doigt. Je sais pas si tu as un gros doigt, mais avec ton doigt en tout cas. mais c'était pas forcément facile. Et avec ça, c'est vraiment plus simple de revenir sur la page d'avant précédente ou l'application précédente.
D'accord. Bon, bah écoute, faut que je reboote et puis je vais voir s'il est dispo. Et puis s'il est pas, faut que je passe sur la version bêta.
Ouais, en bêta, c'est pas mal. On est sur le canal bêta. Enfin, la version bêta est quand même très stable, hein, l'air de rien. Fait pas si peur que ça, et au quotidien, d'accord, t'as pratiquement jamais de lag. Enfin, moi j'ai par rapport à du Canary, ça on n'en parle pas. Canary, faut pas vous lancer dessus, c'est pas la peine si vous avez pas envie de
rebooter
votre Chromebook toutes les. Voilà, c'est ça, mais c'est sympa parce que t'as des nouveautés qui sont vraiment sympas, et c'est grâce à ça que je fais des articles sur My Chromebook. C'est je vois avant beaucoup de monde. Ce qui va se passer et ce qui ne se passera pas aussi des fois, parce qu'il y a des choses qui disparaissent. Alors des fois j'ose pas parler d'un truc parce que je me dis maintenant je vais en parler, il va pas arriver, on va me prendre pour un mytho, et du coup je sais pas. Donc, des fois je me fais griller la politesse par des autres blogs alors que j'étais le premier à le voir, je crois, mais bon, tant pis. C'est pas grave, c'est la vie. Donc une belle news, franchement, le lanceur d'application, c'est une belle nouveauté qui donne vraiment une meilleure interaction avec son Chromebook. C'est beaucoup plus fluide et user friendly, interactif, un truc plus simple d'utilisation. D'accord. En tout cas, enfin ça c'est une news intéressante. Une deuxième, à moins que tu veuilles qu'on aborde 2-3 trucs sur le lanceur d'application.
Non, écoute, enchaîne.
Sinon, alors la deuxième, pareil, encore une news qui arrive progressivement sur les Chromebooks. Alors, quand j'ai fait l'article sur My Chromebook, je pensais sincèrement être le seul en mode Canary et Dev à avoir trouvé ça. Et a priori, d'après vos retours sur l'article, j'ai pas mal de monde qui me dit « Ah, moi, je l'ai déjà, je l'ai eu en version Canal 60 et compagnie. » Bon, bah tant mieux, si vous l'avez, c'est parfait. Donc, vous savez de quoi je vais parler. C'est l'activité récente qui est apparue dans l'application file, l'explorateur de fichiers de Chrome OS. L'activité récente, c'est donc un lien, une rubrique qui est apparue à gauche dans la frame de gauche, la partie gauche de l'explorateur des fichiers, qui permet, quand vous cliquez dessus, de voir toutes les dernières modifications des fichiers qui ont été faites et sur le disque dur de votre, alors le SSD de votre Chromebook, mais également sur le Google Drive. Donc moi j'utilise beaucoup les applications de Google. Bon, moi je pense que vous le savez tous, je suis un peu piqué de Google en ce moment, et j'ai beaucoup de fichiers partagés, des docs partagés, des Google Sheets partagés, bref, même des PowerPoint, pas des PowerPoint, je ne sais plus comment ça s'appelle, slider partagé, et on travaille à plusieurs dessus. Et ce qui est génial, c'est que grâce à ça, en fait, dès que quelqu'un l'a modifié, ça apparaît directement. Donc je suis pas obligé d'aller vérifier, ouvrir mon drive pour savoir si les gens ont modifié ou pas un document. Et ça permet en un coup d'œil de retrouver directement les dernières modifications faites sur un document ou un fichier ou même une photo, enfin peu importe, quoi que ce soit, c'est mis en avant directement. Je sais pas si tu l'as vu sur ton Chromebook dernièrement, Thomas.
Si, je l'ai. Et ouais, c'est vrai que j'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais c'est, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que ça répond à un besoin, en effet, que tu viens de décrire. Il y a peut-être des gens qui n'en ont pas besoin, et puis d'autres pour lesquels c'est génial et qui vont s'en servir tout le temps.
Ouais, c'est. Alors certains vont me dire, m'ont déjà dit, t'as qu'à cliquer en haut à droite, tu organises tes fichiers par date de modification. Je suis d'accord tant que c'est sur le SSD ou quand tu vas sur ton drive. Donc là, l'avantage, c'est vraiment d'avoir réuni les deux espaces de stockage et de pas avoir à organiser par date. Ça change un petit peu l'utilisation. Essayez, vous verrez, ça coûte rien de toute façon d'essayer. Il est par défaut dans votre Chromebook, donc au pire, vous en servez pas. Hein. C'est comme les airbags dans votre voiture, vous n'êtes pas obligé de vous en servir. mais vous les payez, par contre, les airbags. Donc, du coup, il faudra peut-être s'en servir. Enfin bref, vous verrez, vous faites ce que vous voulez avec. Mais c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Et là, ça vous coûtera pas d'argent de l'essayer. Et je peux vous dire qu'au quotidien, si vous êtes plusieurs à travailler sur plusieurs documents, c'est plutôt sympa. Je vous conseille de regarder ça.
Cool.
Tu vas l'utiliser maintenant? De toute façon, au pire, avec nos préparations, tu le verras.
Exactement. Pour les documents de préparation à l'émission, je vais définitivement jeter un coup d'œil à la section dont tu parles.
Activité récente. En français, en tout cas. Chez toi, je ne sais pas si c'est une traduction littérale ou pas.
Ouais,
j'ai aucune idée.
Ouais. Une autre news concernant le son dans Chrome. Ça, c'est un truc qui va m'intéresser, je pense.
Ouais, tu l'as vu passer l'info ou
ouais,
pas?
Ouais, ouais.
Rapidement, ouais. Non, c'est génial. C'est génial. Vous pouvez pas l'utiliser encore, mais c'est génial. Je l'ai utilisé moi. Je vous On va tous sur des sites internet, des blogs qui sont plutôt intéressants en soi, mais il faut qu'ils se rémunèrent, ces blogs, et parce qu'ils sont gratuits, comme My Chromebook d'ailleurs. Et juste petite parenthèse, merci pour les Tipeee, parce que grâce à vous, ils continuent à vivre et ils vivent de mieux en mieux. Alors, je ne deviens pas riche, je ne gagne pas d'argent, mais je peux investir un peu plus dans le serveur, parce que finalement, ça coûte cher un hébergeur et un serveur quand on veut quelque chose de bonne qualité. Et je me refuse à mettre justement les pubs que certains vont mettre qui payent bien. Donc, du coup, c'est des pubs vidéo, vous savez, les vidéos qui se déclenchent toutes seules quand vous lancez votre l'onglet, paf, il y a une vidéo, on sait pas d'où elle sort, il y a un son, on sait pas d'où il sort, on sait juste qu'il sort d'un onglet, mais lequel, parce qu'on en a 45 d'ouverts, et bon, on a la chance, Google a même maintenant à symboliser le fait que le son sort de tel ou tel onglet avec un petit haut-parleur. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, on pouvait couper le son. Enfin, je sais pas si tu savais, tu faisais un clic droit sur l'onglet, sur la partie haute de l'onglet, et puis tu pouvais couper le son de cet onglet. Je sais pas si tu l'utilises déjà, si tu l'avais déjà vu.
Non, je t'avoue que oui, je vois la petite icône bleue, la petite icône du haut-parleur qui s'affiche en bleu quand le son vient de l'onglet.
Tu fais un clic droit sur l'onglet,
je savais pas que je pouvais faire un clic droit.
Et dans le menu, alors clic droit sur un Chromebook, c'est on appuie avec deux doigts sur le trackpad, deux doigts côte à côte. Alors je dis pas ça pour toi, Thomas, hein, évidemment, mais pour ceux qui nous écoutent.
Ouais,
je
savais, mais c'est un bon rappel.
Ouais, ça peut être utile, c'est plutôt intéressant. Donc clic droit sur l'onglet de Chrome qui fait du bruit, où il y a le petit haut-parleur schématisé, et puis là-dedans vous aurez coupé le son de l'onglet. Donc ça, c'est sympa, ça permet de ne pas avoir à mettre sur mute en sourdine son Chromebook, et du coup de plus rien entendre. Vous regardez une vidéo et si en plus vous coupez le son de tout, c'est pourri, ça sert à rien. Et ben on a une nouvelle qui est beaucoup plus intéressante encore et beaucoup plus pointue, je dirais, puisque souvent c'est les mêmes sites internet qui diffusent en permanence de la vidéo. Alors ils choisissent pas forcément, c'est juste ça paye bien et prennent le premier qui vient qui paye bien. Et maintenant Google a dit on va aller plus loin, on va pouvoir via la barre d'URL là où on saisit le https://mychromebook.fr, donc l'endroit où on saisit cette adresse URL, vous allez pouvoir cliquer sur la petite bulle qui est à gauche du nom de l'adresse URL. Alors c'est une petite bulle pour certains quand les sites sont pas sécurisés, c'est un cadenas vert quand c'est sécurisé, bon peu importe, vous cliquez juste du site internet sur la barre URL, vous faites donc un clic droit et vous verrez apparaître toutes les connexions, tout ce qui est possible de faire d'autoriser sur ce site web. Est-ce que je suis clair là, Thomas ? Est-ce que, tout le monde va me comprendre ?
Je pense que.
Donc là, on peut autoriser les cookies, tu vois, les trucs comme ça, l'appareil photo, la micro, la notification, les. Enfin, on peut lui autoriser à faire plein de choses, mais on peut aussi le bloquer. Et là, il va apparaître un nouveau truc qui va s'appeler son, et on peut autoriser ce site internet à émettre ou pas du son. Alors ça, c'est génial, parce que avant on pouvait couper le son d'un onglet, mais quand on relançait un nouvel onglet avec le même site web, on se retrouvait avec le son à nouveau, c'était bien pourri. Mais maintenant, il mémorise, encore une fois. Alors, on va me dire, ouais, la confidentialité, elle est où ? Bon, bah, à un moment, c'est pour nous aider, sur le coup. Ça va mémoriser au même titre que les accès aux cookies, la localisation, l'appareil photo d'un site web. Ça va mémoriser le fait que vous ne voulez plus de son sur ce site web-là particulièrement. Et du coup, la prochaine fois que vous rouvrez l'onglet, dans un an, 6 mois, 10 ans, ben, le son ne sera plus diffusé. Donc, pour moi, je trouve que c'est génial et ça évite de s'exploser les tympans alors qu'on n'était pas au courant que ça allait exploser. Donc, c'est moi quelque chose qui m'intéresse pas mal. Je ne sais pas, dans ton cas, si tu vois
une utilité. Je vais te faire une confidence. En fait, moi, j'ai tendance à bloquer les pubs autant que je peux. Et du coup, le problème que tu décris à la base, les pubs qu'on appelle en pré-roll là, qui t'affichent une vidéo en pop-up sur ton contenu, c'est pas forcément un truc auquel j'ai affaire tous les jours. Mais c'est clair que je peux très bien voir dans un certain nombre de cas à quel point c'est une fonctionnalité utile.
Moi, je bloque pas les pubs. Enfin, j'ai un bloqueur comme tout le monde, hein, mais je bloque les pubs que sur des sites qui sont pas, enfin, qui diffusent trop de pubs justement. Je laisse les. Par exemple, Microbooks, je ne le bloque pas. Hein. Je vous invite à faire tous pareil.
D'ailleurs, tu sais quoi ? Eh bien, en fait, c'est exactement ce qui se passe pour moi. Même My Chromebook est whitelisté, et donc du coup, je vois les pubs de My Chromebook.
Elles sont discrètes.
À partir de maintenant.
Ah merci. Tu vois, en plus, j'ai essayé de les faire les plus discrètes possibles.
Merci. Non, mais on en rigole. Mais soit dit en passant, c'est quelque chose que je fais. Moi, j'ai l'approche inverse à la tienne, mais ça m'arrive assez souvent de whitelister des sites web où en effet les pubs sont assez discrètes et sont pas trop agressives. Par contre, j'ai pas l'approche de tout laisser filtrer et de ne bloquer, de tout laisser passer et de ne filtrer que les sites qui sont trop agressifs. Je fais un peu le contraire. C'est en gros, bon, ce site-là, je l'aime bien. Je pense que en effet, les gens qui travaillent dur sur leur site web méritent d'avoir un petit peu d'argent qui rentre via le revenu publicitaire. Et donc, il y a beaucoup de sites comme ça qui sont whitelistés.
Bon, bah ça, c'est cool. Après, il y a d'autres moyens de rémunérer les sites web. Déjà, parler d'eux, déjà. C'est déjà très, très bien. Et puis, les Tipeee pour nous. Mais après, il y a plein de... Pour la petite histoire, moi, je suis prêt à enlever toutes les pubs. En même temps, c'est pas ce que ça rapporte. Mais c'est toujours ça de prix, je dirais. C'est toujours ça qui sort pas de ma poche personnelle directement pour le site. Mais d'autres vont m'écrire des articles et ça marche tout aussi bien pour moi. Ça permet de faire connaître le site, ça permet d'avoir plus de monde. Et bon, bref, il y a plein de moyens de nous aider, en tout cas sur My Chromebook. Si vous bloquez les pubs, je comprends, j'en suis navré, mais je comprends. Mais j'ai pas mis de son. Donc du coup, pour revenir à notre sujet de base, hein, on s'éloigne un petit peu, mais voilà, c'est plutôt sympa de fait de pouvoir couper les sons d'un site web permanent qui est des fois très agaçant. Rien à faire pour l'instant. Vous n'y avez pas accès, uniquement au canal Canary. Ça va arriver prochainement, sous 6 semaines, je crois.
Ça arrive.
Ouais, ça arrive et je peux vous dire que ça va être plutôt sympa. Toutes les news là, les news de l'activité récente et le son, j'ai envie de le citer parce que ça vient pas de moi directement. Ils ont été découverts par quelqu'un d'autre avant moi qui s'appelle François Beaufort, un évangéliste Google. Bon, il travaille chez eux, il triche un peu, mais si vous suivez pas sa page Google Plus, ça peut être intéressant. Je vais la mettre dans les notes de l'émission. Il parle pas mal de, enfin il parle pas souvent, mais quand il parle, c'est hyper intéressant. Donc je vous invite à suivre ce personnage qui est un Français, qui, comme toi Thomas, qui était expatrié de l'autre côté de l'Atlantique et qui maintenant est revenu en France, je crois, lui, par contre. Et donc voilà, suivez-le, c'est lui qui m'a pingé, je ne sais pas comment ça s'appelle, sur Google+, et qui m'a interpellé et qui m'a permis de voir ça assez rapidement.
D'accord.
Dernière news, je crois. Hein, c'est... Ouais, tu vas le suivre. Bah, tu le suis déjà, donc, je crois, François.
Ouais, je suis sur Google Plus, il me semble. Ouais.
Ouais. Bon, bah, c'est cool. Je vais essayer de l'interviewer. Je vais essayer de le faire venir sur le CKB Show.
D'accord.
Je galère un peu. Pour l'instant, il répond pas souvent.
Ouais.
Il est très occupé, ce monsieur. Bah, je comprends aussi. Dernière news, je te laisse en parler parce que c'est toujours toi qui annonce les mauvaises ou les bonnes nouvelles. Donc, vas-y, annonce.
Alors là, on va dire que c'est une bonne nouvelle, j'espère, non? Tu la catégorises en quelle? On va parler
C'est une très très bonne nouvelle.
On parle du Pixel, mais on parle du Chromebook, de l'original, le Chromebook Pixel. Et donc, enfin, pas de l'original, mais du nouveau Chromebook Pixel. C'est un petit peu confus comme entrée, mais je vous explique tout ça. Le Chrome OS, en fait, a été lancé il y a maintenant plusieurs années, et Google à cette époque avait fait, comme ils le font pour Android, ils avaient lancé leur propre laptop, leur propre ordinateur. Et ils avaient fait ce qu'on appelle un reference design, qui est en gros le concept, c'est de faire l'ordinateur le meilleur, le plus beau, et l'ordinateur de rêve entre guillemets, et d'en faire le meilleur Chromebook du marché. Donc ça vous rappelle un petit peu ce qui s'est passé avec les Nexus pour Android. L'idée, c'était de faire des téléphones de très très bonne qualité à un prix globalement assez modéré, histoire de montrer à tous les fabricants de téléphones ce que pouvait être le téléphone idéal sous Android. Donc le Chromebook Pixel a été un petit peu, comment dire, il est pas encore complètement mort, mais on va dire qu'il devient de plus en plus confidentiel, il se fait tout doucement oublier. Google avait fait une update du Chromebook Pixel il y a quelques années, mais n'avait jamais vraiment poursuivi le programme en lançant, comme ils le font pour Android tous les ans ou à intervalles réguliers, on va dire, une nouvelle version de leur ordinateur sous Chrome OS. Et donc, les rumeurs étaient de plus en plus persistantes, mais il semblerait qu'il y ait un nouveau Chromebook Pixel annoncé, enfin pas annoncé, mais en tout cas qui devrait arriver d'ici un petit mois maintenant, puisqu'on parle du 5 octobre, au cours de l'événement de présentation des nouveaux téléphones de Google, donc qui s'appelle plus Nexus, mais qui s'appelle Pixel. Là encore, ça va devenir compliqué. Je pense que toutes ces news là, dans les semaines qui viennent, je pense qu'on aura vraiment du mal à s'en sortir avec tous ces pixels. Donc Google annonce les téléphones Pixel à partir de probablement autour de début octobre. Et il semblerait qu'au cours de cet événement, un nouveau Chromebook Pixel va aussi être annoncé, ce qui est une nouvelle assez. Enfin, je sais pas ce que t'en penses toi, Nico, mais moi, j'ai vraiment hâte de voir ce à quoi ce Pixel va ressembler. Et donc on parle d'un ordinateur a priori qui serait assez haut de gamme, la gamme de prix serait autour de $799 a priori pour le moins cher, il y aura peut-être deux configurations, donc ce sera un peu plus cher, on n'est pas encore je crois que c'était 1100 ou $1200 je crois pour le Pixel quand il a été lancé il y a 4 ans,
le premier
5
était
ans.
Super cher, ouais, je crois que c'était 1200 le tout premier dans mes
c'est
souvenirs.
Ça. Ouais, donc là ce sera un petit peu plus abordable, mais c'est clair que ça reste plus cher que le plus cher des Chromebooks aujourd'hui doit être autour de $500, quelque chose comme ça. Donc là c'est nettement au-dessus. Mais malgré tout, je pense que ça va être assez intéressant de suivre ça et surtout d'avoir quelqu'un qui tient la dragée haute, tiens, c'est une expression que j'utilise pas très souvent, ça, qui tient la dragée haute à Apple et au MacBook et qui propose un ordinateur qui se veut être un peu à l'avant-garde et qui fait tourner Chrome OS, c'est surtout ça le plus intéressant. Je pense que les Chromebooks prennent de plus en plus de parts de marché. Tous les gens qui n'ont pas besoin de faire tourner de logiciels spécialisés et qui se contentent du web ou qui peuvent avoir finalement tous leurs outils sur le web peuvent très bien se contenter ou se satisfaire d'un Chromebook. Donc voir un Chromebook haut de gamme arriver à un prix modéré, mais malgré tout avec tout ce qui se peut se faire de mieux sur Chromebook, moi j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont annoncer.
Ah, moi aussi, je me fais pas trop d'illusions, ça va être un super beau produit, ça, il y a rien à dire, et j'imagine bien plein de choses, on en reparlera peut-être tout à l'heure, je vais pas aborder le sujet là. La seule crainte que moi je vais avoir, c'est est-ce que je vais pouvoir me le procurer? Voilà, c'est est-ce que je vais être obligé de passer par toi pour me l'acheter, pour me l'envoyer, ou est-ce que je vais pouvoir moi l'acheter directement et pas t'embêter, tu vois ce que je veux dire? C'est pour me donner une tendance sur plusieurs années, j'espère. Mais voilà, les premiers, ils étaient impossibles à acheter en France. Enfin, d'ailleurs, je pense pas qu'on. Ouais, non, il était impossible d'acheter en France.
Ouais. Donc, ouais, voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu le, toujours un peu le problème qu'on n'est pas complètement, c'est pas complètement Android, on n'est pas dans un, dans un marché qui est aussi important et aussi 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 large que pour Android. Et c'est vrai qu'en termes de distribution, ouais, on va voir quoi. Est-ce que ce sera, sera peut-être pas disponible en France immédiatement, mais peut-être après tout, peut-être que Google a envie de changer un petit peu sa stratégie à ce niveau-là et de faire en sorte que Chrome OS devienne un petit peu plus international et un petit peu plus ouvert sur le monde, quoi. Je sais pas exactement.
Ouais, en tout cas, ils ont l'air de se lancer comme ça. Enfin, ils ont l'air de vouloir pêcher plus de public, récupérer dans leur filet plusieurs publics. Ils s'attaquent au marché des entreprises, au marché scolaire. Ils commencent à. On a vu là une news que j'ai pas indiqué, mais Google a envoyé des. Je sais pas si t'as vu. Alors, je sais plus à qui, mais à des développeurs Windows, je crois, dans
ouais,
le souvenir.
Ça. Ouais.
Ils ont envoyé des Chromebooks, enfin un Chromebook dans une petite pochette, sur Chromebook ça marche aussi, ou je sais plus quoi, un truc comme ça, c'était plutôt sympa. Plutôt que d'envoyer une carte de visite, une clé USB, ils ont envoyé carrément le Chromebook comme produit d'Apple. Et ça, c'est quand même, enfin, ils ont envie, quoi. Ils se disent, voilà, en envoyant ça, forcément, les mecs, ils vont être interpellés. Déjà, ils vont l'ouvrir. Ils vont regarder comment ça fonctionne. Et ils vont peut-être se dire, ah ben, en fait, c'est pas uniquement un Minitel, quoi. C'est peut-être aussi autre chose et c'est peut-être un ordinateur.
Ouais, je pense que l'écosystème des Chromebooks.
C'est contre les Minitel, hein.
Ah ouais, c'est. Ben, non, c'est clair que dire qu'un Chromebook c'est pas un Minitel, je te rejoins là-dessus. Mais ouais, ce que j'allais dire, c'est que l'écosystème des Chromebooks est finalement beaucoup plus riche aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 4-5 ans quand le Pixel a été lancé. Donc oui, finalement, ça, à mon avis, maintenant, c'est un outil qui a vocation à devenir de plus en plus mainstream et peut-être que, bah, finalement, ils hésiteront pas à se lancer sur d'autres marchés, et en particulier en Europe, quoi.
Ouais. À voir. L'avenir nous le dira.
Exactement.
Très prochainement.
Ouais, on sera.
Peut-être le 5 octobre, peut-être qu'ils vont nous dire, ah, comme le Pixel, on vous l'ouvre dès demain à la vente en commercialisation. Allez sur le Google Play Store et cliquez sur acheter.
Ouais.
Et recevez-le sous 48 heures grâce à Amazon. Pardon. ça va être super simple. Enfin, j'espère en tout cas que ce sera comme ça et de toute façon, ils ont tout à gagner de faire ça.
Exactement.
Donc on verra tout ça très très prochainement. Alors du coup, vu qu'on parle d'avenir avec le prochain Pixel, on va continuer et on va aller encore plus loin. On va aller au plus loin que l'avenir. Je sais pas si ça existe, mais on va aborder. Non, ça existe pas. Bref, on va aller plus loin que ça, plus que l'infini, au-delà de l'infini, vers l'infini et au-delà, comme dirait l'autre. On va aborder le futur des Chromebooks. Donc, Thomas, tu nous as fait un dossier qui est plutôt bien fourni, qui va nous lister quelques pistes, quelques idées, quelques fonctionnalités qui pourraient bien arriver dans nos Chromebooks d'ici quelques temps. C'est ça à peu près, hein.
Ouais, l'idée. Alors c'est vrai qu'on dans les news en général, on aborde, bah, un peu comme on l'a fait là, les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur le canal Canary ou sur le canal bêta qu'on teste, qui des fois sont lancées en stable, qui des fois disparaissent. Mais c'est vrai que l'idée de ce dossier, c'était de faire un peu le tour de tous ces trucs dont on a parlé au cours des 5-6 derniers mois et de voir un petit peu dans quelle mesure ça allait changer l'usage ou ça allait changer un petit peu l'usage au quotidien qu'on a de nos Chromebooks. Donc l'idée, c'était de faire un petit peu le panorama des évolutions du Chromebook qui vont arriver dans les 12-18 mois, on va dire. Et alors on va par exemple commencer à parler des empreintes digitales. Donc on sait que, a priori, j'ai vu que tu avais fait un article sur la question, Nico. Il y a le support des empreintes digitales est maintenant complètement là sur Chrome OS. Alors le seul truc, c'est qu'il n'y a pas encore, à ma connaissance, de Chromebook qui officiellement ont le détecteur d'empreintes digitales intégré au clavier, enfin au matériel. Tu confirmes?
J'en ai pas vu un seul, moi, sur les clés. Enfin, donc du coup, moi, dans l'article, je proposais des clés USB que tu, enfin des comment on appelle ça, des
Ouais, un détecteur d'empreintes, mais ouais. Enfin, un lecteur d'empreintes, mais USB en fait,
externe, que tu branches ouais,
en
ça,
USB
ouais.
sur le laptop, ouais.
Ouais.
Et mais donc du coup, ouais, du coup c'est on y est quoi. C'est quelque chose qui est aujourd'hui supporté par l'OS. Donc l'OS est capable de déverrouiller ou de verrouiller l'appareil avec la lecture d'empreintes digitale. Et donc du coup, on se rapproche de ce qui existe aujourd'hui sur Mac. Alors j'ai changé de Mac là il y a pas très longtemps, donc maintenant on a le petit lecteur Touch ID directement intégré au clavier, enfin au-dessus du clavier. Et c'est vrai que c'est des petits détails. On se dit que c'est gadget, mais finalement moi maintenant que j'ai ça, ça m'arrive de plus taper de mot de passe pour déverrouiller mon laptop pendant des semaines et des semaines quoi. Et ça rend quand même les choses un tout petit peu plus simples. Mais là on parle d'un usage un petit peu basique finalement, puisque c'est verrouiller, déverrouiller, enfin déverrouiller en l'occurrence. Mais imaginez que avec Touch ID on peut faire par exemple valider des transactions en ligne et directement faire des achats, valider l'achat en fait qu'on est en train de faire directement sans entrer le numéro de carte de crédit par exemple pour pouvoir finaliser l'achat. Donc d'un côté ça fait un peu peur parce que ça simplifie les achats sur internet, donc on a tendance à dépenser l'argent un peu plus vite qu'il rentre. mais d'un autre ça simplifie quand même énormément le processus en fait, et ça rend quand même les choses beaucoup plus faciles, et à chaque fois que j'ai besoin d'entrer une carte de crédit pour faire un achat, je me dis ah si seulement ils avaient pu implémenter Touch ID ou avoir un moyen entre guillemets de finaliser la transaction plus rapidement. Donc je pense que c'est des usages qui vont devenir de plus en plus communs, et que à mon avis dans quelques années ça nous paraîtra complètement incongru d'aller récupérer le... Alors c'est vrai que là je parle un petit peu d'une expérience américaine. Je pense qu'en France c'est quand même un petit peu moins commun, et les sites par exemple ou les applications ont peut-être un petit peu moins tendance à retenir les numéros de carte bancaire.
Ah, il y en a beaucoup, enfin il y a beaucoup de sites étrangers. Je parlais d'Amazon, un petit peu Amazon garde ta carte bancaire et il sécurise pas ton paiement. Enfin c'est un peu particulier, Amazon c'est le plus gros vendeur du monde, mais il sécurise pas en fait. N'importe qui prend ta CB, il la tape, ça marche quoi. Donc, aucune sécurité autre que ça, donc ça c'est pas grave. Mais de plus en plus ils mémorisent. Après est-ce que c'est conseillé de le mémoriser avec les sécurités qu'on a aujourd'hui? Je sais pas, après c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que c'est pratique. Mais pourquoi pas? Enfin, ce qui est assez étonnant quand on parle de capteurs d'empreintes, il y a quelques années, il y a quelques mois, sur Chromebook, en fait, j'avais fait un article qui permet, enfin, on peut toujours le faire d'ailleurs, je sais plus comment ça s'appelle, tu peux déverrouiller déjà ton Chromebook avec le capteur d'empreintes de ton smartphone. Tu peux lier les deux, il faut qu'ils soient liés en Bluetooth. Ton smartphone, d'accord, et ton Chromebook, et tu as un système de déverrouillage via, en fait tu déverrouilles ta session de ton téléphone et à partir de là ça déverrouille automatiquement ton Chromebook. Donc c'est un peu le même système finalement, tu vois, l'interconnexion entre les deux, Android Chrome OS, Android Chrome OS Android, et ainsi de suite. Ils sont pas très éloignés, c'est des frères ennemis, tu vois, ils s'aiment mais pas tout le temps. Et en pas de famille, ils sont sympas mais il faut pas trop les titiller sur la politique ou autre chose comme ça. Ça marche déjà aujourd'hui. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils mettent autant de temps à faire quelque chose qu'ils ont déjà fait, qu'ils savent déjà faire. Je l'utilise plus à cause de la technologie Bluetooth qui décharge beaucoup mon smartphone, ce qui commence à faire un petit peu. Il a un petit peu d'âge, hein, il a maintenant 7 mois, c'est un vieux smartphone, hein, déjà un peu. Et donc ça marche déjà. Si on repart sur les modes de paiement, au-delà de la carte bancaire, je pense que la carte bancaire, elle est morte. Dans quelques années, on ne devrait plus avoir ce bout de plastique. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, en France, on est encore plus loin. Hein. On a encore des chèques. Je pense que tu sais même plus ce que c'est, toi, des chèques. C'est ce bout de papier où on écrit une somme et on signe. Et puis, le mec, il le dépose à la banque. C'est une reconnaissance de dette, en fait, un chéquier. Il dépose à la banque vérifie que tu es solvable et après, il te donne l'argent. C'est un truc, ça met 10 ans à être réglé. Bon, bref, c'est bien pourri, ces trucs-là. Mais nous, en France, on aime bien. On est attaché à ce bout de papier. On est attaché à nos dettes, je pense. Je sais pas. Je pense que dans un avenir proche, sans parler du Chromebook, on ne devrait plus avoir ces systèmes de paiement. Même la monnaie, l'argent liquide devrait disparaître. Bon, après, je ne veux pas toutes les banques et tout en main. Et on le voit. Alors, nous, on ne le voit pas très bien en France, mais toi, tu dois l'avoir. Apple Pay, Google Pay en Chine ou au Japon, Snapchat Pay ou un truc comme ça. Tous les pays du monde ont des systèmes de paiement. Donc, l'empreinte qui te permet de payer, elle fonctionne déjà. Enfin, je pense que... Non, t'as pas d'iPhone, donc mais tes collègues, t'as bien des collègues qui sont pas très très bons, du coup, qui ont acheté un iPhone, ils peuvent payer leurs courses avec ça.
Mais même non, mais oui, c'est ça. Ouais, c'était WeChat, c'est ça dont tu parles en Chine avec
WeChat, le scan de
code barre. Ouais, non. Alors ici, bon, en plus, on est à San Francisco, donc c'est probablement un tout petit. Il y a une concentration de geeks au kilomètre carré qui est peut-être un peu plus importante qu'ailleurs. Mais mais oui, si, en effet, tu peux payer avec Apple Pay, mais tu peux aussi payer avec Android Pay en fait. Et moi, ça m'arrive assez souvent de partir aller acheter un café quand on n'enregistre pas, tu vois, un épisode tôt le matin et que j'ai pas besoin de me faire le café à la maison et que je sors pour aller acheter le café. Ça m'arrive de temps en temps. Et ça m'arrive de partir de la maison juste avec mon téléphone, sans ma carte, sans mon portefeuille en fait, et de payer avec le téléphone. Ça, c'est quelque chose c'est un usage qui est très très commun. Donc ouais, en effet, je pense que alors je me vois mal me balader avec mon laptop un jour et me sortir le Chromebook en disant attendez, je vais vous payer, regardez, j'ouvre la session et je pense que globalement
ouais,
le paiement
t'es une autonomie de fou avec un Chromebook hein, avec ton iPhone au bout de 8 heures t'es à plat hein. Avec
ouais,
un Chromebook,
ça
peut passer 12 heures pour certains. Non mais c'est pour l'intégrer dans le Chromebook, le système de paiement, ça devrait être déjà fait finalement.
Et voilà, c'est ça.
Le capteur d'empreinte va
exactement, ce sera pour l'achat en ligne. Ouais, c'est clair. Tu vas pas faire un achat dans le magasin avec le Chromebook. Le téléphone sera probablement toujours le moyen de prédilection pour ça. Par contre, c'est clair que pour les achats en ligne, je vois très rapidement arriver le lecteur d'empreintes digitales pour valider et finaliser une transaction, par exemple. Je pense que ça, c'est la suite logique des choses. Ouais.
Et peut-être que dans le Pixel, on aura un capteur d'empreinte. Il y a des bruits, enfin il y a pas mal de bruits hein, sur ce Pixel d'ailleurs.
Oui, j'espère que ce sera un des premiers Chromebook avec le lecteur d'empreinte. Donc à voir. Donc voilà. Donc entre guillemets, l'arrivée d'une façon assez simple pour finaliser les transactions. Je pense que le lecteur d'empreintes digitales va vraiment aider pour ça. Et je pense que le Chromebook, finalement, a presque un petit peu de retard à rattraper par rapport à ce qui existe sur Mac ou sur Android. Un autre usage aussi, c'est finalement la disparition des mots de passe. Moi, j'utilise 1Password, qui est un gestionnaire de mots de passe assez populaire. Et aujourd'hui, 1Password a directement la lecture d'empreintes intégrée à la fois sur macOS et sur Android. Et j'imagine qu'ils l'ont aussi sur iOS. Donc ça veut dire que finalement j'ai accès à tous ces mots de passe qui sont enregistrés sur 1Password directement sans avoir plus à taper aucun mot de passe, mais juste avec l'empreinte digitale. Et donc du coup on peut se dire que peut-être que quand l'empreinte digitale sera disponible, le lecteur d'empreinte digitale sera disponible sur Chrome OS, on n'aura plus besoin de se rappeler du mot de passe pour accéder à la banque, pour accéder aux applications financières, pour accéder même finalement à un moment donné aussi à n'importe quel site qui nécessite un login et un mot de passe. Donc voilà, donc je pense que il y a aussi les histoires de je sais pas si tu connais Nico ce qu'on appelle l'authentification de facteurs, c'est comme ça qu'on dit en français, non,
deux étapes
deux étapes, ouais c'est ça. Et ouais, soit on utilise le mot de passe, soit on utilise le SMS, mais les gens qui suivent un petit peu les choses de près savent que il y a beaucoup de questions qui commencent à se poser maintenant sur le SMS pour le deux facteurs, et que il y a beaucoup de gens qui disent que finalement c'est assez facile de prendre le contrôle d'un abonnement téléphonique de quelqu'un et de se faire transférer les SMS et donc de pirater ses comptes. En tout cas ici ça commence à se voir énormément. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait voler leur Bitcoin par exemple en se faisant pirater leur authentification de facteur par SMS. Donc il y a beaucoup d'applications maintenant qui je sais pas si tu utilises Nico comment ça s'appelle Google Authenticator.
Ouais, c'est ce que j'utilise, ouais.
Ouais. Et donc du coup il y a, alors Google Authenticator utilise pas de lecteur d'empreintes le lecteur d'empreintes digitales pour se déverrouiller, mais il y a de plus en plus d'applications qui fournissent ce qu'on appelle les tokens de facteurs qui sont verrouillés par l'empreinte digitale, le capteur d'empreinte digitale. Donc ça ajoute une sécurité en plus, il faut déverrouiller le téléphone, après il faut déverrouiller l'application, après il faut copier le token, et là à partir de là vous êtes authentifié. Donc on voit qu'il y a quand même des moyens de rendre ces processus d'authentification de facteurs plus sécurisés, et ça passe encore par le lecteur d'empreintes digitales.
Mais l'empreinte, ouais. Enfin, moi j'y connais rien en empreinte digitale. Je sais que c'est des petits creux, des bosses, machin, tout ça. A priori, on est censé en avoir tous des uniques. Mais je me dis que ça reste des creux et des bosses, quoi. Un vinyle, c'est des creux et des bosses aussi. On sait le reproduire.
Ouais, c'est un bon point que tu lèves là. C'est vrai qu'il y a des
moi
enfin, c'est facile
c'est,
entre guillemets,
c'est assez
facile.
Étonnant.
C'est,
enfin,
c'est possible.
Quelque chose, à mon avis, peut être produit assez facilement. Mais bon, on verra.
Ah oui, oui, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution.
Des choses étonnantes, des capteurs d'empreintes qui vont être de plus en plus plus puissants peut-être,
perfectionnés.
Ouais. Et ouais. Mais là aujourd'hui, je sais pas. J'attends de voir. J'attends de voir si ça s'améliore ou pas au fur et à mesure du temps.
Donc un autre usage aussi qui va à mon avis arriver et qui va aussi un peu nous changer la vie dans notre usage des Chromebooks au quotidien, c'est Google Assistant. Donc aujourd'hui, donc je pense que vous savez tous que Google a lancé Google Home. Et d'ailleurs, Google Home est arrivé en France. Hein. Ça y est, tu confirmes
ouais, ça,
Nico?
Ouais, ça y est, ouais. Il y en a qui l'ont. Ouais. J'ai voulu l'acheter, puis madame m'a dit non.
Alors, ah, c'est dommage.
Bon, pour l'instant, j'ai baissé les bras sur ça. T'inquiète, c'est pour rebondir sur d'autres choses.
Ouais, je me doute. Je te fais confiance. mais donc, ouais, Google Assistant, donc, il vit à la fois dans certains téléphones Android. Alors, en France, c'est juste par Allo pour l'instant, par l'application de messagerie instantanée Allo. Ouais. Mais ça va arriver de façon générale sur Android. Et puis donc, Google Home est là. Donc l'idée c'est d'avoir cette espèce d'entité, j'aime pas trop dire intelligence artificielle parce que c'est trop large, mais en gros c'est Google et puis on peut lui parler, lui poser des questions. Donc nous des Google Home à la maison, tu vois, on en a deux, il y en a un dans la cuisine et un dans le salon.
Mais 300 balles,
rien
pour deux majordomes déjà.
Ouais. Mais bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup, il y a peut-être un petit peu d'abus, mais bon, c'est
vous
notre
êtes pas un peu geek les deux là-bas.
Une autre conversation, ouais, un petit peu. Mais du coup c'est vrai que ça c'est à mon avis on n'est pas prêt de voir ça disparaître. Et Google il y a la concurrence en face de Cortana sur Windows, de Apple avec Siri et puis de Alexa d'Amazon. Donc tu vois Alexa d'Amazon, par contre ouais. C'est dans la chambre. On a trois assistants, trois enceintes
la journée
les
trois intelligences artificielles là.
Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais et ça pour dire que ouais, c'est
un peu espionné quand même tout le temps. Enfin, je sais pas, c'est parce que ça t'écoute en permanence ces trucs-là.
Ouais. Alors après, c'est censé uniquement s'activer quand tu dis le mot magique. Mais,
ouais, mais le mot magique, faut bien qu'il t'écoute pour qu'il l'entende.
Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez. C'est une bonne question. J'ai pas forcément de bonne réponse pour toi. Je pense que la réponse est non. En gros, le bénéfice par rapport au coût me paraît valable. Mais ouais, c'est vrai que il y a toute une question philosophique. On pourrait lancer un débat autour de ça. Ce sera peut-être pour la prochaine fois.
La prochaine fois, ouais.
Ouais. Mais donc ouais, Google Assistant arrive en force. Et là, par exemple, il y a une démarche de Google qui consiste à mettre Google Assistant dans plus seulement les outils Google, enfin le matériel de Google, mais le mettre un petit peu partout. Et donc on a vu là qu'il y a Sony par exemple qui sort sa propre enceinte connectée qui supporte Google Assistant. Ouais. On a vu qu'il y avait des accords avec LG, et donc très rapidement certaines machines à laver de LG, certains, il y a même l'aspirateur connecté de LG qui va embarquer Google Assistant. Donc bon là je sais pas, je pense que c'est difficile de faire plus gadget, mais après tout pourquoi pas hein, avoir attends, tu demandes à ton aspirateur quel est le président des États-Unis et il te répond, c'est quand même génial quoi.
C'est génial. C'est plutôt du genre, va me chercher une bière, toi. Aspirateur, ok, va chercher une bière. Puis il va au frigo, puis il lui dit frigo, ouvre-toi que je prenne une bière. Tiens, enfin, après, j'aurais plus besoin de bouger, je vais devenir obèse. Enfin, bref, non, on va peut-être pas apprendre ça.
C'est l'étape d'après. Google Assistant va vraiment arriver. Et puis, bon, on va voir, Amazon fait la même chose. Enfin, en gros, c'est les quatre géants, hein, Cortana, Alexa d'Amazon et Siri de Mac, en gros, peut-être un petit peu moins d'Apple d'ailleurs, mais en tout cas on voit bien que Google, Amazon et Microsoft essayent vraiment de mettre leurs entités intelligentes dans les outils de fabricants tiers en fait. Et ouais. Donc ça, je pense que c'est
Apple,
vraiment
a priori
ce qui va
veut pas se
lancer
dedans hein.
Ouais, Apple Siri, annonce
leur enceinte, ils ont dit que c'était une enceinte avec un peu d'intelligence artificielle, mais ils ont balancé ça comme étant quelque chose avec du son.
Ouais, alors après moi
Google Home.
Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je me dis que bon, aujourd'hui ils disent ça, et ils veulent préserver un petit peu leur image exclusive, mais on va voir combien de temps ça durera. Et tu vois par exemple sur comment ça s'appelle CarPlay, ouais. Non, c'est pas CarPlay. Si, c'est CarPlay. Je sais plus comment ça s'appelle. L'intégration d'iOS directement dans les voitures. On voit bien qu'au bout d'un moment, ils ont été obligés d'y venir, tu vois. Donc, je me dis que peut-être qu'à un moment donné, moi, je vois bien le Siri arriver sur certains véhicules haut de gamme ou ce genre de choses, tu vois. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ils se disent non, ça nous intéresse pas. Aujourd'hui, on fait que du Apple pour Apple, mais peut-être que ça changera dans le futur. Bon, par contre, Amazon, Microsoft et Google s'embarrassent moins de ce genre de facéties. Et eux, ouais, c'est ça. Ils arrivent et leur objectif, c'est d'être le plus disponible partout et le plus possible. Mais donc voilà, donc je pense que tout ça pour dire que Google Assistant, à mon avis, va très rapidement arriver sur Chrome. Et d'ailleurs, on a vu, je pense que c'est toi qui avait posté un article il y a pas très longtemps là-dessus, que ça commence à arriver avec le stylet, c'est ça, avec le menu du stylet.
Oui.
Ou en tout cas, on pourra rapidement, a priori, parce que je crois que c'est pas officiel, utiliser Google Assistant directement sur Chromebook.
Ouais, il y a deux. En fait, il y a eu deux. Alors, je les ai eu les deux mises à jour assez proches l'une de l'autre. Une première où on voyait dans les paramètres de Chrome OS, on voyait apparaître. Alors, je sais plus ce que c'était. C'était moteur de recherche. Vous voyez, dans le paramètre, ça s'appelait moteur de recherche et / assistant. Et maintenant ça a disparu. Bon bah voilà, c'est réglé. Et ensuite quelques semaines après, j'ai plus les délais en tête. Quand t'enlèves le stylet du Chromebook dans le menu stylet qui apparaît en bas, t'avais Google Assistant bientôt ou entre
ouais, chargement grisé. Je crois ça montrait
ouais chargement ouais c'est ça ouais. Ouais c'était grisé, inutilisable, mais on peut se dire que c'est peut-être un moyen de rentrer enfin. En tout cas, ils y pensent. On ne voit pas deux fois apparaître ce truc-là par hasard dans Chrome OS.
Ouais,
ils pensent à intégrer Google Assistant. Et là, je dirais presque. Alors, moi, je trouve que c'est bien, bizarrement, dans mon Chromebook. Alors que, tu vois, Google Home, moi, je voulais en acheter parce que je suis un peu geek sur les bords. Et même si je ne m'en sers pas, je veux l'acheter quand même. Donc, pas pour aujourd'hui, mais je vais attendre mon anniversaire ou Noël. Et je me le ferai offrir. Si on me l'offre, elle ne peut plus dire non. Et on ne peut pas refuser un cadeau, tu comprends, c'est comme ça, c'est la vie. C'est pas bien de refuser. Mais je le vois bien sur mon Chromebook. Moi, par exemple, en ce moment, j'essaye d'écrire mes Google Doc et je les écris tout à la voix et je trouve ça génial, ça marche du tonnerre de Dieu, il fait 10 fois moins de fautes que moi, bon en même temps c'était pas très compliqué tu me diras, mais je dicte ce que je veux à mon Chromebook et il écrit ce que je veux et je peux lancer des recherches déjà aujourd'hui par la voix et donc si je pouvais en plus avoir Google Assistant qui vient s'appuyer sur tout ça et me donner encore plus de contenu parce que aujourd'hui je suis quand même encore obligé d'aller chercher moi-même mes requêtes, enfin faire mes recherches sur Google pour aller trouver. Si je pouvais avoir tout ça dedans, ça peut être génial. Alors dans le stylet, la seule chose que je vois d'intéressant dans le stylet, c'est que ça une espèce de bouton qui permet d'interagir avec Google Assistant plutôt que de dire OK Google parce que ça l'air de rien. Comme je te disais avec ton Google Home, tu vas être obligé de t'écouter tout le temps, donc ça veut dire qu'il fonctionne tout le temps. Ton Home, il est branché à l'électricité, donc c'est encore pas trop grave. Mais mon Chromebook, il est sur batterie. Et si je le laisse tout le temps dessus, est-ce que ça va pas décharger ma batterie? Alors que si c'est un bouton, toi, j'appuie sur le stylet qui ressort, et c'est, tu sais ce que c'est. T'appuies sur le stylet, il y a un espèce de ressort qui fait sortir le stylet. Et peut-être que ce serait le déclencheur plutôt que de parler à ton Chromebook, ce serait peut-être le déclencheur de mon truc et qui permettrait de ne pas avoir à m'écouter tout le temps pour économiser la batterie de notre Chromebook.
Ouais, exactement. Moi, d'ailleurs, non, si c'est très 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 logique ce que tu dis et ça me fait penser que par exemple, tu vois Siri est maintenant intégré sur MacBook et donc avec le nouveau MacBook Pro là, on a un petit bouton d'ailleurs qui active Siri et je pense que à chaque fois que j'appuie sur ce truc là c'est par erreur. C'était dans la nouvelle touch bar là de Chrome du MacBook qui est c'est pas forcément l'objectif du podcast d'en discuter mais c'est vrai que ça pose un petit peu question, je sais pas trop à quoi ils pensaient quand ils ont créé ce truc là. Mais du coup il y a un bouton pour activer Siri et c'est vrai que Siri qui est présent sur le MacBook Pro est pas activé par défaut et pas toujours en train de t'écouter et guetter pour quand tu dis hey Siri quoi. Donc donc je pense qu'il y a de grandes chances pour que Google s'inspire de cette solution quand ils mettront ça sur Chromebook.
Bah d'ailleurs, il y a eu dans certains commits, il y en a qui ont vu un bouton, un clavier de Chromebook avec un bouton assistance.
Ah d'accord.
Qui viendrait se positionner près de la touche Ctrl Shift. Ouais, enfin, ouais. C'était pas très clair pour moi, donc j'ai préféré pas en parler. C'était trop confus. Mais a priori, alors moi ça me gêne parce que ça veut dire que tous les anciens Chromebook n'auront pas ce bouton, ils seront amputés de la fonction assistance si c'est ça. Mais certains disent qu'un bouton physique apparaîtrait sur les Chromebooks avec la fonction assistant.
Ce serait assez logique, ouais. Ouais.
Mais je le préférais dans le stylet, tu vois.
Ouais.
Parce que le stylet, il est discret, il est sur le côté, t'appuies, tac. Enfin, moi, je préférerais ça parce que c'est pas un bouton de plus. On a déjà un bouton dédié à Google, c'est le bouton de search, la loupe, je sais pas comment ils appellent ça, chercher.
Ouais.
C'est déjà ce bouton-là. Donc, à la rigueur, interagir avec ce bouton-là, peut-être un appui plus long sur le bouton pour lancer une autre ou un raccourci clavier, Ctrl Shift Search, je sais pas moi. Plutôt qu'un bouton supplémentaire, moi ça me gênerait d'avoir un bouton de plus. Bon, après, s'ils font comme ça, ils font comme ça, mais ça me gênerait les anciens possesseurs de Chromebook.
Ouais, mais je pense que l'idée c'est quand même de le faire en sorte que les gens l'utilisent le plus possible. Donc, le meilleur moyen que les gens l'utilisent et que ça devienne un petit peu une habitude chez les nouveaux utilisateurs, c'est d'en faire un bouton dédié. Après, je comprends, je comprends ton point de vue, c'est vrai que. À voir un petit peu comment ça se passera, mais c'est vrai que tout ça pour dire que je pense que assistant, il y a à mon avis de grandes chances pour que ça devienne vraiment un usage très très courant dans les années à venir. Et je sais qu'il y a des gens les gens qui nous écoutent ont probablement certains scrupules à parler à leur téléphone ou à parler à leur ordinateur. Mais et c'est vrai, hein, c'est même s'il y a beaucoup de gens qui disent ouais j'aime bien, j'aime beaucoup, ou il y a des gens qui disent ouais non j'aime pas trop. Globalement, on est quand même tous un tout petit peu timide à l'idée de en public de parler à son téléphone. Tu vois, c'est un truc que j'utilise beaucoup, mais moi j'utilise à la maison.
J'essaye des fois, mais moi aussi j'essaye dans la rue. Je prends mon kit piéton, je mets le micro devant ma bouche et je dis, enfin, je le cache.
Discrètement, tu vois, tu chuchotes quoi.
Ok Google, envoie un SMS à ma chatte, c'est pourri quoi. J'ai presque honte de le faire, alors qu'au contraire, enfin, je sais pas, mais je suis d'accord. Je l'utilise dans ma voiture tout seul, ça, je l'utilise bien. J'utilise pour faire le malin dans les repas de famille. Mais dans la rue, c'est vrai que j'ai du mal à utiliser cette fonctionnalité. Bon, d'autres n'ont pas de problème, pour utiliser ça. Ils écoutent leur musique à fond, ils ont leur discussion, tout le monde entend leur discussion téléphonique. Mais moi, je suis plus réservé.
Ouais, non, je pense que c'est la réaction à peu près générale. Mais bon, à voir un petit peu comment les choses évolueront, et peut-être que dans 5 ou 10 ans, bah, finalement, on se posera moins la question. Et c'est comme, tu sais, au début, les téléphones qui sont arrivés, et on voyait tous ces gens-là qui parlaient tout seuls à leur téléphone dans la rue. Bon, aujourd'hui, c'est plus tellement un motif de réaction, quoi.
Non, on se moque de ceux qui n'en ont pas maintenant.
Ouais, voilà, c'est ça. Et juste au passage, un autre argument en faveur de Google Assistant. Donc, il y a aussi des rumeurs. Donc, probablement, quelque chose qui sera annoncé au cours de l'annonce là qui va y avoir le 5 octobre. Il semblerait que Google est en train de travailler sur l'équivalent des AirPods. Donc les AirPods pour les utilisateurs d'iOS qui nous écoutent, c'est ces petits comment est-ce qu'on appelle ça, écouteurs connectés intelligents qui permettent de directement parler à Siri, de passer un coup de fil, et qui sont tout petits et qui se rechargent dans leur petite boîte qui se connecte, qui est rechargeable par Bluetooth, par USB. Et donc, il semblerait que Google est en train de travailler sur quelque chose de similaire. Faut savoir que c'est un vrai hit ici aux États-Unis. Alors, je sais pas ce que ça donne en Europe, mais ici, c'est vraiment un carton. Et tu vois énormément de gens qui l'utilisent. Et je suis assez surpris parce que c'était pas forcément le truc le plus. Enfin, quand j'ai vu la présentation, je voyais pas ça forcément comme étant le truc le plus ergonomique. C'est pas forcément les plus abordables non plus. Je crois que c'est autour de $200, quelque chose comme ça.
Ouais, c'est coûteux. Donc c'est assez cher. C'est super cher. Ouais. C'est petit. Moi, la crainte, c'est ça. Enfin, tu les perds facilement. Enfin, moi, dans mon entourage, alors je suis pas très Apple, vous le savez tous maintenant, mais j'ai quand même des amis qui sont eux Apple, malheureusement. Mais je vais peut-être arrêter de les voir. Mais il y en a qu'un sur tout le lot qui a acheté les AirPods, et il m'a fait rire parce qu'il a acheté, tu sais, c'est dans une petite boîte, tu mettais deux écouteurs dans une petite boîte que tu branches pour recharger, qui a une batterie propre qui va recharger automatiquement tes AirPods. Il a acheté une boîte, la même chose, c'est un revendeur sur Amazon, en fait, qui, on a l'impression que c'est une boîte de comment ça s'appelle, de fil dentaire, tu sais, il y a tout comme si c'était du fil dentaire, parce qu'en fait, il s'est déjà fait tirer sa boîte une première fois, il en a pas et c'est tellement petit qu'il le pose dans le train, dans des choses comme ça, et il se l'a fait voler en deux secondes, et du coup, il a acheté une boîte, donc, enfin, il a acheté un truc qui coûte 300 balles ou 200 balles et il est obligé de mettre un truc autour. Bon, après, il s'en sert pas plus que ça, je trouve. Ouais, j'ai pas l'impression que ça soit. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, je vois pas grand monde avec, mais je suis dans une petite ville. Alors, du coup, peut-être que Paris ou.
Ouais, sur Paris, c'est peut-être différent.
C'est quelque chose qui marche bien, ouais.
Mais moi, je sais que c'est impossible de pas aller au boulot et de pas avoir des gens qui ont ça dans les oreilles. Même au boulot, tu vois, les gens qui passent des coups de fil ou autres, qui utilisent ça pour passer des coups de fil. Et globalement, les gens en sont assez contents, donc je pense que ça doit bien marcher. Ouais. Mais donc voilà, donc Google à mon avis a bien capté l'histoire et est en train de bosser sur quelque chose qui serait similaire. Donc aujourd'hui c'est que des rumeurs et le nom de code c'est Bisto, B-I-S-T-O. Alors je sais pas exactement d'où ça vient, mais le nom est un peu bizarre. J'espère que, qu'ils trouveront un nom un petit peu plus un petit peu meilleur au moment du lancement. Mais donc voilà, donc ce sera, et c'est, on parle de ça dans le contexte d'assistant parce que donc les AirPods fonctionnent avec Siri et c'est à peu près certain que si Google lance quelque chose comme ça, ça sera des écouteurs Bluetooth pour écouter la radio, des podcasts ou la musique, mais il y aura probablement aussi une fonctionnalité assistant, une connexion assistant qui fera que vous pourrez peut-être envoyer des messages ou directement déclencher des actions sur votre téléphone à partir de ces écouteurs.
Ouais, à voir, ça peut être sympa. Je suis curieux. Voilà. Tu vois, j'en avais pas entendu parler. Je suis curieux. Ça marche très bien pour Apple, hein, parce qu'a priori, bah, demain dans la journée, il y a la keynote d'Apple pour annoncer le nouveau produit. Et a priori, il y aura des nouveaux AirPods d'annoncer aussi.
Ah ouais, d'accord.
Donc, c'est que ça doit bien marcher.
Ouais, ils sont sold out et ils sont en rupture de stock. Je parle français.
En rupture.
Et c'est assez. Alors bon, ils étaient en rupture de stock il y a quelques semaines, donc j'imagine que depuis il y a de nouveaux lots qui arrivent, mais c'est apparemment assez compliqué de les obtenir et les gens qui les ont ne jurent que par ça. Donc bon, encore une fois, je suis dans le microcosme un peu particulier de San Francisco et c'est peut-être pas forcément représentatif du reste du monde, mais je pense qu'il y a à mon avis une opportunité assez intéressante à saisir pour Google et puis pour assistant de façon générale.
Ouais, c'est bien.
Donc voilà, donc là on a parlé d'assistant et puis on va enchaîner en parlant un petit peu des SMS et des notifications. Alors bon, les Chromebooks sont forcément très très couplés à l'écosystème Google, mais il y a aussi des ponts qui existent entre les Chromebooks et Android. Et c'est vrai que donc c'est quelque chose qu'on a évoqué dans des épisodes précédents, mais il y a quand même une forte il va forcément y avoir encore plus de synergies qui vont apparaître a priori dans les années à venir entre les SMS que vous pouvez recevoir par votre téléphone sur Android et votre Chromebook. Et pareil pour les notifications d'applications, de plus en plus vous allez avoir des applications qui vont vivre à la fois, enfin vivre entre guillemets, à la fois sur votre Chromebook et sur votre téléphone. J'ai l'impression que c'est des Tamagotchi un peu, tu sais, tu leur donnes à manger, faut penser à la fois au Chromebook.
C'est ça, Tamagotchi, il y en a qui savent pas ce que c'est, hein, ceux qui nous écoutent.
C'est vrai.
Parce qu'ils sont jeunes.
Faut aller voir sur Wikipédia les gens qui savent pas ce que c'est.
On mettra un lien sur Tamagotchi, ce que c'est.
mais donc ouais, c'est vrai qu'il va y avoir une convergence et donc c'est vrai qu'il y avait des essais de la part de Windows qui avait lancé Continuity il y a quelque temps. C'est quelque chose qui est très très développé sur Mac. Les gens qui utilisent à la fois un Mac et un iPhone savent que finalement envoyer un SMS à partir d'un Mac c'est presque la même chose qu'envoyer un SMS. Enfin, c'est la même chose qu'envoyer un SMS à partir d'un téléphone. Enfin, il y a même les appels. On peut démarrer un appel sur un. Peut-être pas démarrer un appel sur l'iPhone et le reprendre sur Mac. Mais en tout cas, on peut prendre un appel sur Mac ou prendre un appel sur iPhone. Ça revient au même, quoi. Ou déclencher un appel sur Mac ou sur iPhone. C'est presque la même chose. Ouais.
Ce qui est pas possible pour l'instant, en fait. Sur un Chromebook.
Sur Chromebook. Alors justement, moi j'utilise le MVNO de Google qui s'appelle Project Fi et donc du coup il y a une très forte intégration. MVNO c'est
un opérateur virtuel qui ne possède pas ses propres fréquences et ses propres antennes en fait.
C'est en anglais d'ailleurs MVNO. Comment est-ce qu'on
MVNO,
dit en français?
MVNO c'est mobile opérateur virtuel.
Opérateur virtuel, voilà. Donc c'est l'opérateur virtuel de Google qui fonctionne sur T-Mobile et Verizon. Et donc du coup qui permet d'avoir non d'ailleurs c'est pas Verizon, ça doit être Sprint. Mais peu importe, donc qui permet de passer des appels c'est un opérateur en fait hein, c'est comme alors comment ça s'appelle les opérateurs virtuels qu'il y a en France. Bon, on va pas faire de pub,
on a
mais
la
peu importe
mobile,
mais
on a Énergie Mobile, on a M6 Mobile, voilà. On a tous les trucs comme ça quoi. Donc il faut en citer trois Google... pour pas être attaqué en justice.
Voilà, donc c'est bon. Donc du coup, il y en a beaucoup qui existent ici aussi. Google a lancé le sien et l'idée c'est, encore une fois, hein, de faire un petit peu comme ce qu'ils font pour les téléphones Android ou pour les Chromebooks, de lancer un petit peu ce qu'ils voudraient être un petit peu un exemple d'opérateur mobile de façon assez confidentielle, mais histoire de montrer aux opérateurs mobiles que finalement, il y aurait moyen d'offrir de la data illimitée ou de la data de très bonne qualité à un prix très abordable. Et aussi d'offrir un certain nombre de services et d'intégration avec, en l'occurrence là, Hangout. Finalement, avoir ProjectFi et avoir Hangout sur son ordinateur, c'est finalement presque la même chose qu'avoir un iPhone et d'avoir un Mac. Donc quand je peux sur Hangout directement déclencher des appels, je peux répondre à des appels, je peux envoyer des SMS, recevoir des SMS. Je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers ça.
Mais Hangout, c'est un petit peu de ce que je comprends moi d'où je suis, Hangout c'est un petit peu en déclin chez Google puisqu'ils veulent absolument lancer, t'en parlais tout à l'heure, de Google Halo et Duo, leur messagerie dite unifiée qui ne le sont pas du tout. Je sais pas comment ils vont faire pour intégrer tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils gardent Hangout pour lancer mes appels. Moi, j'utilise déjà mes SMS, par exemple. En fait, j'utilise plus de SMS. J'utilise Hangout comme ça. J'ai mes disques, mes conversations. Je les ai sur mon Chromebook, je les ai sur mon smartphone, ma tablette, bref, partout où je suis. Je les ai parce que j'ai les applications. Et si jamais j'ai pas mes produits à moi, je prends n'importe quel navigateur web. Je vais sur Hangout.com, je sais plus comment, Google.Hangout.com, et j'ai accès à mes discussions. Je peux lancer un appel, lancer une visio. Et aujourd'hui, on a Google avec Google Halo. Qu'on a l'impression qu'ils essayent de sortir de ça.
Ouais, c'est une question qui est pas résolue quoi. Il y a beaucoup de gens qui se posaient la question quand ils ont lancé Halo de se dire mais quel est l'objectif de Halo ? Est-ce que vous allez faire en sorte que Hangout soit que pour les pros et faire que Halo soit la messagerie grand public ? Il y avait beaucoup de gens qui disaient ça au début. Il semblerait que c'est pas exactement ce qui est en train de se passer. Donc je sais pas, je pense qu'il y a des luttes internes au sein de Google et que les choses sont pas forcément super super claires et que nous de l'extérieur on se demande ce qui se passe, mais je pense qu'il y a pas forcément de cohérence claire en termes de stratégie pour la messagerie instantanée chez Google aujourd'hui. Je pense que ça arrivera un jour, mais en attendant il faut jongler un petit peu entre les deux. On n'a pas parlé de Duo aussi qui est l'équivalent de FaceTime, ouais c'est ça, la visio sur Android. Je sais pas, à voir un petit peu comment les choses évolueront, mais ce qu'il faut en tout cas pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui sont les Chromebooks, ce à quoi il faut s'attendre, c'est clairement la possibilité de répondre ou de déclencher des appels directement à partir de votre Chromebook assez rapidement, et puis pareil pour l'envoi et la réception de SMS. Je pense que ça c'est à mon avis c'est quelque chose qui va arriver rapidement. On en a parlé il y a un ou deux épisodes il me semble, une fonctionnalité envoi et réception de SMS qui avait fait son apparition dans je crois que c'était dans bêta non ou ou juste dans Canary dans non, les settings
dans les paramètres bêta. Canary en un premier temps, maintenant ils apparaissent ensuite c'était en bêta mais avec un flag, une fonction expérimentale à activer, et puis maintenant il y est sans cette fonction expérimentale, c'est recevoir une notification pour les nouveaux recevoir des notifications pour les nouveaux SMS sur votre Chromebook. Alors, je l'ai, j'ai beau l'activer, elle se désactive dès que je sors de paramètres, mais ça présage quand même, comme pour le stylet tout à l'heure, enfin pour assistance, ça présage que quand même d'une évolution très proche, parce qu'elle est déjà intégrée et bien intégrée. Le menu, il apparaît dans appareils connectés. Ils ont créé un menu spécialement pour ça.
Donc, ouais. C'est assez, assez étonnant. Ouais. Je sais pas exactement. En gros, c'est une fonctionnalité qui est là, mais qui ne marche pas pour l'instant.
C'est ça.
Bon, je pense qu'ils en feront quelque chose un jour. Hein. À mon avis, ils l'ont mis là pour une raison. Donc,
après, c'est peut-être
faut espérer que ça arrive.
On sait peut-être pas s'en servir, hein, tout simplement. Bon, en même temps, ils ouais,
c'est,
expliqué,
c'est
mais...
possible, mais à mon avis, on n'est pas les seuls si on ne sait pas s'en servir.
Non, j'ai regardé partout, personne ne sait.
Ouais.
Alors, s'il y en a qui le savent, d'ailleurs, moi, j'aimerais bien. On ne sait jamais. Hein, ça se trouve, il y en a.
On est preneur.
Il y a peut-être François qui nous écoute. François Beaufort, et puis qui lui joue tous les jours avec, et puis qui est en train de rigoler dans son coin en disant ah les cons, ils savent pas. Eh ben, dis-le nous. Je suis preneur parce que j'aimerais bien essayer cette fonctionnalité, ça m'interpelle. Ouais. J'aimerais voir comment on peut interagir avec son smartphone ou pas, ou avec son numéro de téléphone. Bref, je prends.
Ouais. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que assez rapidement, vous allez probablement avoir les notifications et les SMS qui seront directement disponibles sur le Chromebook.
Si on parle pas de futur, je t'interromps deux petites secondes. Si on parle pas de futur, on peut parler quand même d'un petit peu de Google Halo qui est arrivé sur les Chromebooks.
Oui, c'est vrai. Alors en plus des SMS, c'est vrai que bon, on parle beaucoup des SMS, c'est quand même un moyen qui est très très utilisé, mais par exemple il faut savoir que, alors pour parler de la concurrence, WhatsApp aujourd'hui, le trafic WhatsApp c'est plus que le trafic de SMS au niveau mondial, donc il y a plus de messages WhatsApp qui sont envoyés tous les jours que de SMS qui sont envoyés tous les jours dans le monde, et donc le futur entre guillemets n'est peut-être pas forcément dans le SMS, mais c'est peut-être plutôt dans ces messageries instantanées, donc on parle de WhatsApp ou de Messenger de Facebook, mais aussi potentiellement de Halo de Google. Et aujourd'hui, Halo est disponible directement sur le web. Donc, je parle beaucoup de WhatsApp, mais si vous utilisez WhatsApp, vous savez que vous pouvez aller sur le web et connecter votre compte WhatsApp sur votre téléphone directement à votre navigateur. Et ben, Halo, c'est exactement le même principe. Il y a le fameux QR code à scanner dans votre application Halo sur votre téléphone, et hop, automatiquement, vous pouvez recevoir vos messages. Vous avez accès à vos messages directement sur le navigateur. Je trouve que Halo est moins utilisé, mais est quand même beaucoup plus riche que Hangout. Il y a un truc qui m'énerve sur Hangout, par exemple, c'est que les liens, quand on envoie un lien Internet, c'est toujours pas résolu proprement. L'intégration des photos, par exemple, quand on veut ouvrir une photo, quand on a le petit pop-up Hangout sur l'ordinateur et qu'on clique sur la photo, il nous balance une espèce de Google Photo vraiment dégueulasse en plein écran, alors que ce qu'on a juste envie de voir, c'est le contenu de la photo de façon un petit peu plus grosse que sur la petite fenêtre Hangout de Gmail ou de Inbox. Donc j'aime bien Halo, je trouve que c'est plus propre, je trouve que c'est plus facile à utiliser. Le problème, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer l'émission, c'est que personne ne l'utilise. Et donc du coup, même si c'est présent préinstallé sur Android, eh ben les gens l'utilisent pas.
Ah,
quoi.
C'est installé par défaut.
Donc c'est un peu un problème pour. Je sais pas ce qu'il en est pour toi, mais moi je sais que sur mon Pixel,
mais t'as un Pixel. Mais les Pixels, enfin il y a pas beaucoup de Je veux pas dénigrer, mais même si j'adore Pixel.
Et donc ça veut dire qu'il est pas installé par défaut sur les.
Ah non, moi.
Il est pas installé par défaut sur les autres téléphones Android.
Non, là, tu vois, j'ai dans les mains un Note 8 là, donc je viens de recevoir mon Note 8. Je l'allume à peine pour
bien.
Voir. Google.
Et non, il est pas préinstallé.
Dessus. Bon après, à mon avis, il l'impose pas.
Ouais, c'est intéressant. Peut-être que c'est aussi un truc. Juste aux États-Unis, je sais pas trop. Ouais, j'ai pas. Alors tu vois, moi j'étais persuadé qu'il était préinstallé, donc faut que je prenne le temps de creuser un petit peu. Mais bon, bref, ça pour dire que personne ne l'utilise, donc c'est un petit peu problématique pour quand on va envoyer des messages à quelqu'un, si on est le seul à avoir l'application installée sur son téléphone, c'est pas tellement.
Moi j'ai un auditeur qui m'a demandé s'il pouvait l'utiliser avec moi. Il m'a dit, on peut discuter juste pour voir comment ça marche. Je lui fais, écoute, oui, je serais heureux de savoir comment ça fonctionne aussi.
Donc, c'est un moyen de se faire des amis, finalement.
C'est le nouveau Tinder. Ça m'a fait rire.
Ouais, c'est ça.
Ah, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des fonctionnalités intéressantes dedans. Enfin, mais à voir.
Ouais, c'est vraiment une super application. Même la génération. Est-ce que tu t'es créé ton propre GIF ou ton propre GIF selon la façon dont on le prononce?
Alors c'est alors
avec
c'est
la photo
staté,
de
c'est
non,
GIF
t'as pas fait ça.
Hein, c'est le créateur du GIF qui l'a dit.
GIF,
hein.
Ok.
Non, j'ai vu passer l'info et je me suis dit je vais le faire, mais plus tard. Et plus tard, et toujours pas arrivé.
Mais tu vois, rien que ça, c'est génial, quoi. Bah voilà, et moi je l'ai fait pour montrer aux copains qui l'avaient pas et pour leur montrer un petit peu à quoi ça ressemblait, et c'est super quoi. Ça prend une photo de votre visage et ça crée un gif à partir de la photo. Qui est génial quoi. Enfin moi mon gif, je l'adore quoi, mais le problème c'est que je peux que l'utiliser dans Hangouts.
Non, dans Halo, tu veux dire.
Donc du coup, c'est un peu dans Halo, pardon, dans Halo.
Tu lances l'application Halo et puis
alors je sais plus exactement dans quelle section c'est, mais
je vais chercher.
Ouais. mais bref, ça pour dire que donc ouais, Halo est vraiment une super application, mais bon, malheureusement pas assez utilisée. Ouais. Donc à voir un petit peu si ça va devenir le défaut pour les SMS ou si on va continuer à utiliser Hangouts ou les applications.
Mais il y a la concurrence là-dedans, donc forcément
propre à Android.
Après
ouais.
À voir.
Donc ouais, à voir. Donc voilà. Donc ça, c'était la section SMS et notifications. Et puis on va aussi parler rapidement de l'arrivée de nouveaux Chromebook. Donc on en a parlé abondamment au cours de cet épisode. Mais c'est vrai que l'arrivée d'un nouveau design de référence pour les Chromebooks, je pense que ça pourrait aussi changer la donne. On va probablement voir. Il y a déjà beaucoup de constructeurs qui s'y intéressent, mais je pense que ça pourrait potentiellement accélérer un petit peu les choses. Je serais curieux de voir un Chromebook haut de gamme Sony, par exemple, arriver. Je pense que ça pourrait être intéressant. Il y a déjà des Chromebooks Lenovo assez haut de gamme qui commencent à arriver. Donc je pense que ça pourrait donner du renouveau au Chromebook. Et encore une fois, il y a à mon avis beaucoup de gens qui pourraient très très bien satisfaire d'un Chromebook. De bonne qualité, donc je pense que ça,
surtout
c'est...
si les applications Android arrivent dessus, forcément, parce que là je lisais un article de OneNet, alors du coup je vais leur répondre, enfin je vais leur demander un droit de réponse, même si c'est pas moi qu'ils attaquent, hein. Ils expliquent c'est quoi leur titre, PC, Mac ou Chromebook, comment choisir son portable pour la rentrée. Ah, j'étais content, je me dis OneNet, enfin je sais pas si tu connais,
ouais.
Si tu dois connaître, ils parlent de Chromebook, donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et puis quand tu lis Chromebook, en fait c'est un appareil qui marche pas s'il est pas connecté à Internet, donc en gros ils savent pas ce que c'est, mais ils en parlent quand même. Bon, pourquoi pas, ils auraient mieux fait de demander à un spécialiste, je sais pas, moi ou toi, enfin, n'importe qui d'autre qui aurait utilisé un Chromebook un jour dans sa vie, quoi.
Ouais.
Bref, et donc du coup eux ils sont pas au courant que les applications Android elles sont pas toutes obligatoirement connectées à Internet, visiblement, et ils mettent dans leur article, bah vous voyez, un Chromebook on peut pas utiliser Skype. Et ben si, les amis de OneNet, on peut utiliser Skype, c'est une application Android, on la télécharge et ça marche.
Ouais.
Enfin bref, et donc en fait il faut passer au-delà des préjugés qu'on peut avoir. OneNet en est le, alors c'est qui, je vais pas citer la personne qui a écrit, on s'en fiche, mais c'est un préjugé énorme pour eux. Skype, un Chromebook, ben c'est un ordinateur connecté à Internet qui ne sert à rien s'il n'y a pas Internet. Et derrière, il parle de Skype. Excuse-moi, mais si tu n'as pas Internet, Skype, il ne sert à rien, monsieur.
Je te sens très remonté, là.
Ah non, mais j'étais content, j'étais heureux, tellement heureux de voir un site un peu de référence. Enfin, après, on peut appeler, enfin, référence ou pas, on s'en fiche, mais un site pro qui parle des Chromebooks, que j'étais tout content. J'ai lu leurs 800 premiers mots, là. Puis j'arrive, ah, Chromebook, qu'est-ce que c'est un Chromebook? Oui, il y a. Alors, si vous êtes pauvre, que vous n'avez pas trop besoin d'un ordinateur, que vous ne savez pas quoi faire de votre vie, vous pouvez acheter un Chromebook. Non, ben non, enfin, non. C'est, et le mec, il dit, ben, si tu n'as pas Internet, tu ne peux pas t'en servir. La preuve, il n'y a pas Skype. Ben oui, non, mais n'importe quoi. Bref.
Donc voilà, c'était le coup de gueule de Nico.
Non, mais n'importe quoi. J'ai voulu répondre en commentaire, je fais appelez-moi, enfin contactez-moi, on va en discuter. Et le problème, c'est qu'il faut s'inscrire, il faut que notre inscription soit validée par je sais pas qui. Donc du coup, ça fait 2 jours que je peux pas y répondre, ça m'énerve encore plus, je bouillonne intérieurement et ça m'énerve. Enfin bref, donc les applications Android vont arriver forcément sur le nouveau Pixel. Pour revenir à nos, je me calme. Pour revenir à notre Pixel, ils vont forcément arriver dessus. Et ça va donner encore plus de choses. Là, je répondais sur Twitter. Hearthstone, ça s'appelle comment? Hearthstone, et qui interrogeait le développeur du jeu, qui dit à quand Hearthstone sur un Chromebook. Et le mec, il fait, ben on a déjà sur iOS, sur Android, c'est tout, pas sur Windows, enfin pas encore sur Chromebook. Alors j'interviens, je fais ouais. Hey Polo, notre Chromebook est Android. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait ouais. J'ai téléchargé le jeu, j'y joue. Bon, malheureusement, maintenant j'aime bien, alors du coup, j'y joue. Et j'ai envoyé une capture d'écran au développeur pour lui dire hey, si ça marche sur Chromebook. Donc, même le mec qui a développé l'application, il ne sait pas que ça marche sur un autre système.
Il n'est pas au courant, quoi.
Ouais, enfin,
mais ouais, alors, tu vois, tu me tends une perche extraordinaire pour aborder le dernier sujet le dernier mini-sujet de ce dossier, qui est Andromeda. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que les gens, bah, comme tu dis, que ce soit donc le journaliste de 01net, là, dont tu parlais, ou le développeur de Hearthstone, les gens, en fait, sont pas forcément au courant de ce qu'est un Chromebook, parce qu'ils en ont jamais vu, parce qu'ils en ont jamais utilisé, et parce que, bah, pour eux, bah, comme tu l'as dit, c'est Chrome, et Chrome, bah, quand il n'y a pas Internet, bah, ça sert à rien. Et donc je pense qu'un moyen intéressant de remédier à ça, c'est déjà donc d'écouter le CKB Show tous les mois et de suivre un peu l'actualité des Chromebooks et d'écouter les experts comme toi que comme moi d'ailleurs, mais qui parlent abondamment des Chromebooks et de tout ce qu'on peut faire avec les Chromebooks. Mais l'autre solution aussi, c'est peut-être à faire en sorte que Google explique un petit peu mieux ce qu'est un Chromebook, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et un moyen de changer ça, c'est peut-être de changer le nom ou de présenter une approche marketing un petit peu différente. Et donc il semblerait que Andromeda, qui est le nom de code de la fusion de Chrome OS et d'Android, eh bien arrivera peut-être pour le 5 octobre, mais en tout cas, si c'est pas le cas, dans les mois à venir, ouais. Et l'idée, ce serait d'avoir cette espèce de nouveau concept, j'allais dire concept marketing, mais non, en fait, en gros, ce sera un nouveau système d'exploitation, mais qui sera ni plus ni moins qu'une convergence un peu plus aboutie de Google Chrome et de Chrome OS plutôt et d'Android. Et je sais que c'est assez vague pour nous parce que c'est finalement encore que des rumeurs, mais je pense qu'il y a quand même il y aurait quand même moyen de dépoussiérer un petit peu le concept et de créer un nouveau nom avec un nouveau nom et peut-être aussi quelques raffinements au niveau de l'expérience utilisateur. Il y aurait, je pense, moyen de donner son envol à Chrome OS.
Bah, tu vois, j'ai complètement oublié de t'en parler lors de la présentation, mais ce matin, j'ai mis un article sur My Chromebook. Ce matin, en plus, hein, tu vois, le mec, il a une mémoire de poisson rouge, le gars. En fait, Google a un blog officiel pour Android. Ils ont des blogs officiels pour tout, hein, chez Google. Et ils ont diffusé le 7 septembre comment bien développer son application Android pour Chromebook. Je sais pas s'ils l'ont appelé exactement comme ça. Ce qui est assez amusant, bon, donc du coup je me suis amusé à lire, c'est optimiser vos applications Android pour les Chromebooks, c'est ça le terme. C'est en anglais, mais c'est la traduction que j'en ai faite. C'est fou quand tu lis. Enfin, moi ça me paraît tellement bizarre de devoir expliquer qu'un Chromebook, en fait, ça a plusieurs tailles que les gens peuvent définir. Enfin, dans leur document là, en fait, ils expliquent ce qu'est un ordinateur. C'est étonnant pour
en tant que développeur, tu dis que, enfin là je me mets à la place un peu des développeurs, c'est vrai que c'est une plateforme qui paraît nouvelle, qui est peut-être pas forcément super super claire, et en tant que développeur tu t'attends un petit peu à avoir ce genre de d'explication, mais pas forcément parce que tu sais pas qu'un ordinateur peut avoir plusieurs tailles, mais que tu sais pas forcément comment est-ce qu'en tant que développeur tu dois gérer ces différentes tailles. Et c'est vrai que c'est un truc qui existe aujourd'hui sur Android, hein, forcément depuis même le début, hein, y a toujours eu différentes tailles de téléphone et différentes tailles d'écran, mais c'est vrai que le fait d'avoir cette nouvelle plateforme qui arrive, qui est Chrome OS, hein, qui va vraiment être une nouvelle plateforme Android, bah en tant que développeur tu te poses un petit peu la question de savoir comment est-ce que tu vas supporter ces nouveaux écrans. Donc c'est pas forcément autant pour dire hey, d'ailleurs au passage les écrans peuvent avoir différentes tailles, mais c'est plus pour dire il faut que vous, comme vous le faites sur Android, il faut que vous gériez les différentes tailles et voilà quelques façons de le faire. Et puis c'est les différentes tailles et le refenêtrage dynamique aussi, enfin le redimensionnement dynamique des fenêtres. Donc j'ai lu l'article, je me suis pas encore attaqué au développement d'une application pour Chromebook, mais j'y pense. Les journées font que 24 heures, mais j'y pense.
Si jamais tu as une journée de 25 heures un jour, je lance un appel à toi ou à plein d'autres. Je cherche quelqu'un qui pourrait me développer une application Android Chrome OS, les deux.
D'accord.
Hein, Andromeda, quoi. Hein, qui qui parle, tu vois, je vais l'appeler comme ça d'ailleurs, je vais le souffler le truc. Qui parle, qui mettrait, enfin, qui remettrait Chrome, My Chromebook, en fait, accessible directement avec un icône, enfin, je sais pas trop comment, avec les news directes, des petites notifications, des choses comme ça, qui apparaîtraient directement sur, soit avec un widget sur l'écran du téléphone, ou simplement un icône avec une petite bulle façon Apple, ou, enfin, voilà, et pourra interagir avec les lecteurs, même quand j'ai pas d'article à écrire, que je puisse envoyer une petite news, un lien qui m'intéresse sans forcément passer par les réseaux sociaux. Donc, voilà. Bon, si jamais t'as 25 heures dans tes journées, là-bas, ça peut arriver. Ou si d'autres personnes nous écoutent et veulent se lancer dans le test de développement, pourquoi pas, eh ben, je suis preneur pour faire le bêta-testeur.
D'accord. Le message est lancé.
Voilà. Au cas où.
Cool.
Voilà. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, on voit qu'Andromeda va venir, va arriver. Enfin, progressivement, on en parlait lors de la présentation. Ça va pas être brutal. Ça va pas être, on arrête Android, on arrête Chrome OS. On va progressivement d'ici, je sais pas, moi, je l'imagine bien ça sous 3 à 5 ans, un truc comme ça. Une évolution peut-être plus rapide. Ça dépend, en fait. Ça dépend de comment ils vont interagir, mais plus, très indolore, en fait. Ou ça va se faire naturellement.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut, s'attendre à, il faut s'attendre à voir ça, ouais, voilà, une transition douce, on va dire, hein, un petit peu comme l'arrivée des applications Android sur sur Chrome OS qui a mis du temps, hein, mais on y est. Et je pense qu'Andromeda, ça va être la même chose. Ouais.
Ouais, ça va être cool. Enfin voilà, donc avec toutes ces news, enfin toutes ces le futur. Ah si, ben on peut juste le Pixel, je reviens dessus parce qu'il y en a pas mal qui m'ont posé plein de questions. Je ne sais pas la taille de l'écran, je ne sais pas l'autonomie batterie, je sais rien en fait. Hein, c'est juste des rumeurs, mais on va bientôt le savoir. La seule chose a priori devrait être sûre, c'est que ce sera un clavier rétroéclairé. Donc ça c'est cool parce que on l'attend et que ce sera tout en aluminium, donc ça sera un produit très haut de gamme, que ce sera sur du processeur. Alors, j'ai entendu des bruits, mais comme Samsung du OP1, ouais. Peut-être là-dessus, mais aussi
OP1,
Intel.
Ouais.
Ouais, c'est celui du Samsung Plus, OP1, ouais, un truc comme ça.
Ouais,
en fait,
ouais.
Une version un peu plus strong, un peu plus forte du processeur. Peut-être de l'Intel dessus aussi. Alors, je sais pas encore. Avec du Q Full HD, c'est quoi la taille plus au-dessus? Si, c'est le maximum Q Full HD.
Ouais, c'est ça.
Ouais, donc ça serait juste énorme. Et évidemment, une dalle tactile. Enfin, on aura un produit très très haut de gamme. Donc, quand tu disais au début que ça coûterait 700. Tu disais quoi, 700 euros, 790 euros?
Ouais, ça.
Bah, en fait, voilà, c'est cher peut-être, ouais, ou dollars, mais en fait, ça le vaut largement. On mettrait une pomme dessus, il vaudrait 1800 dollars ou 2000 dollars, quoi.
Ouais,
il faut
ouais.
relativiser les choses. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je crois que Thomas, il va falloir que tu nous laisses, donc je vais te laisser clôturer et je vais te laisser clôturer. Moi, je vais juste dire au revoir à tout le monde. Merci à tous. N'oubliez pas qu'il y a des Tipeee. Vous pouvez toujours nous remercier. D'ailleurs, les tipeurs ont accès au doc que j'ai créé. Qui explique comment utiliser un Chromebook. Donc, si vous typez seulement maintenant, c'est à partir d'un euro jusqu'à un milliard d'euros. Si vous voulez nous donner un milliard d'euros, vous
aurez accès à ce doc.
Ou plus encore, hein, soyons fous. ou même en dollars, hein, je prends toutes les devises, hein, ça ne me gêne pas. Les bitcoins, vous m'en donnez 2-3 000, c'est bon, ça ira très bien. Donc les tipeurs ont accès à ça, donc je vais essayer de donner des petites choses aux tipeurs parce que eux nous ne font pas que afficher la pub sur du site, ils vont aussi me donner donner de l'argent à My Chromebook et je leur en remercie vraiment beaucoup parce que c'est vraiment touchant et c'est ce qui me motive encore plus. Peu importe la somme, c'est ça qui est important. Donc je vais donner maintenant un peu plus de choses aux tipeurs. Donc là, typiquement, je voulais vendre le bouquin sur les plateformes Amazon et compagnie, même une poignée d'euros. Moi, j'ai décidé de le donner à tous ceux qui tipaient. Comme ça, bah, c'est cadeau et j'attends leur retour si jamais c'est pas ce qu'ils voulaient ou ils aimeraient quelque chose de plus performant. Et puis par la suite, ben, je vais commencer les jeux concours. J'arrive à trouver des partenaires qui enfin me donnent qui nous font confiance et qui savent qu'on n'est pas juste des mecs qui parlent de Chrome OS et c'est tout, qui vont nous envoyer des produits à tester. Ce ne sera pas des Chromebooks, hein, c'est compliqué, mais des accessoires. Et alors pour l'instant, ça sera sûrement réservé à la France. Il faut que je négocie avec eux pour voir si on peut pour les tipeurs, des petits sacs, des claviers, des ports USB, j'ai des tonnes de lampes là, en ce moment, ils m'envoient des lampes connectées à mon Chromebook, enfin bref, plein de choses comme ça que je vais faire gagner au fur et à mesure à nos tipeurs. Donc si jamais vous voulez le lien, je le remettrai dans la description de ce podcast. Moi je vous dis à tous ciao, bye bye, et puis je te laisse les derniers mots, Thomas, pour que tu puisses ensuite partir travailler.
Ouais, bah Nico, écoute, comme d'habitude, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi, et puis j'espère que ça a été bien apprécié du côté des auditeurs aussi. N'hésitez pas à nous faire vos retours, n'hésitez pas à vous dire ce que vous pensez de l'épisode et du podcast de façon générale, et à la prochaine.